With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers vos témoignages sans filtre. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @nudepodcast. J'y dévoile les coulisses du podcast et aussi j'aime avoir vos retours et impressions sur les épisodes. Sur le papier, Dora Mouto a une vie de rêve. Intelligente, jeune et belle, ancienne chroniqueuse télé, puis rédactrice en chef de Combini, elle cumule les succès. Alors, quand j'ai vu une vidéo sur internet intitulée « Dora Mouto souffre de la maladie des pets », j'ai cru à une blague. Et puis non, Dora souffre bien de cette étrange maladie en apparence comique et elle a décidé de ne plus se taire. Cela m'a frappée. Il faut que je vous dise qu'il y a un peu plus de 10 ans, j'ai commencé le métier de journaliste dans la presse santé. J'étais amenée à discuter avec des patients et derrière chaque maladie, il y avait une histoire. Un sujet en particulier m'a bouleversée, ce sont les maladies estampillées gênantes, taboues, honteuses. Car il y a une sorte de double peine. En plus de sa pathologie, le malade se heurte à l'incompréhension, aux moqueries, et doit vivre ses symptômes en secret. Dora, elle, a subi le rejet de ses proches et a longtemps souffert de ne pas être crue, car encore récemment, aucun praticien en France ne connaissait sa maladie. À son calvaire quotidien s'ajoutent les errances médicales pour se faire diagnostiquer et des examens et traitements médicaux hallucinants d'une grande violence. Pour donner du sens à son parcours et sortir de la honte, Dora a décidé de parler de sa maladie, sans détour et sans filtre. Son livre s'appelle « À fleur de paix », au micro de Nude, elle nous raconte son parcours. Cet épisode est divisé en deux parties, voici la première.
Je m'appelle Dora Mouto, j'ai 33 ans. Je suis une journaliste. À côté de ça, je suis aussi quelqu'un qui est malade chronique des intestins. Je dis toujours que je suis à fleur de peau et à fleur de paix, que ça représente un peu les deux traits de ce qu'est devenue ma vie. Et c'est aussi une partie aujourd'hui de ma personnalité. Je suis tombée très malade, très subitement. Et les symptômes ont été, une machine à gaz. Mais quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que j'étais mademoiselle tout le monde avec quelques petits proutes par-ci par-là avant d'aller aux toilettes, et c'était pas un problème parce que faire quelques petits gaz, c'est pas grave, à quelqu'un qui a envie de péter par heure 70 fois, quoi. Enfin, vraiment, à chaque minute, il y avait un nouveau gaz. Quand je mange, littéralement 15-30 minutes après chaque repas, quoi que je mange, j'ai le ventre qui commence à être distendu. Et je commence à avoir mal. Vraiment, je sens des brûlures, j'ai mal au ventre. Et environ une heure à deux heures après, je me transforme en machine à gaz. C'était des gaz qui étaient à la fois parfois odorants et bruyants. Et c'est-à-dire que quand j'évacue un gaz, il y en a toujours un autre. J'avais le sentiment qu'il y avait une petite bête à l'intérieur de moi qui pétait toutes les secondes et c'était sans fin. Et j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe?
Ce qui se passe, tu l'apprendras bien plus tard, c'est que tout ça provient en fait d'un dérèglement de ton microbiote. Quelques années avant, tu avais pris en fait des antibiotiques pendant 6 mois, parce que tu faisais des cystites à répétition, et par-dessus ça, tu avais attrapé une tourista carabinée en Inde. Et tout ça a déréglé pour toujours ta flore intestinale. Mais à cette époque, tu ne le sais pas et tu ne comprends absolument pas ce qui t'arrive.
Tout commence quand j'ai à peu près 22 ans. J'ai 22 ans, je vis aux États-Unis, je suis stagiaire dans un magazine à l'époque. Et ça va pas du tout. C'est-à-dire que je ballonne absolument tout le temps. Et quoi que je mange. C'est-à-dire que même si je mangeais hyper sainement, c'était la même chose que si je mangeais un McDo. Et je me rends compte que c'est très compliqué pour moi d'être au travail. Puis à l'époque, j'ai aussi un petit ami qui est là. Et je sais plus comment faire. C'est-à-dire que je peux plus coucher avec lui, je peux plus être dans la même pièce que lui. Enfin, rien ne va.
Tu lui en parles à ce moment-là ?
Non, je lui en parle pas. Je passe des heures aux toilettes, je fais des allées-venues, il comprend pas pourquoi. Je sors de la chambre à longueur de temps. Et puis je sais pas comment le dire. Et puis ça se dit pas, donc je dis rien. Je dis juste que là, je suis pas bien, faut que j'aille aux toilettes. Enfin, je reste floue. Et les mois passent. Et je sens que ma santé décline. J'arrive pas à trouver de réponse. Je vais voir quelques médecins aux États-Unis. On me dit que j'ai pas grand-chose. Et puis aux États-Unis, ça coûtait trop cher pour moi de faire une coloscopie. Donc c'est le moment où je décide de rentrer prématurément en France. C'est-à-dire que je coupe cette année de stage aux États-Unis où je me dis non, en fait là, ça va pas du tout. Je tombe malade. J'ai conscience de tomber malade.
Donc à ce moment-là, tu n'en parles à personne ?
À ce moment-là, au début, non, j'en parle à personne, sauf à ma mère qui est médecin. Je lui dis, maman, il y a un truc qui va pas. Et c'est elle qui me convainc quand même de revenir en France faire des examens. Et donc, je reviens un peu en catastrophe à Paris. Je prends un rendez-vous chez un gastro. Et on me fait une coloscopie. Et puis, j'ai rien. La médecin, la gastro-entérologue me dit, mais mademoiselle, vous êtes en pleine santé. Il n'y a aucun problème. Elle me donne 3 petits médicaments qui servent pas à grand-chose. Et puis, je repars chez moi. Et en fait, elle se rend pas compte qu'elle me brise quand elle me dit « Vous n'avez rien ». À ce moment-là, je comprends absolument pas ce qui m'arrive. Puis, j'ai aucune connaissance en santé, j'ai aucune connaissance en biologie, j'ai aucune connaissance sur le microbiote. Et puis, c'est dur de remettre un médecin en question quand on est jeune et qu'on sait rien, donc j'accepte ce diagnostic en me disant « bah ça va passer ». Donc, je laisse passer 6 mois et puis ça va toujours pas. Et ce qui se passe ensuite, c'est que je vais vivre en Angleterre parce que j'ai pas terminé mes études. Je dois faire une dernière année à l'université. Ça va toujours pas, évidemment. Et je vais voir d'autres médecins en Angleterre qui, eux, sont plus évolués, par exemple, sur la question des régimes alimentaires. Donc, déjà, je commence à expérimenter des régimes alimentaires différents, relativement contraignants. Donc, c'est pas facile. Mais je vais voir une petite amélioration. Et c'est aussi une période où je découvre les lavements. Donc, c'est-à-dire que j'achète un bock à lavement. Et puis, je mets de l'eau chaude. Je mets 1 litre d'eau chaude que je m'insère matin et soir dans les intestins. Je deviens 100% addict au lavement. C'est-à-dire que les lavements me permettent d'avoir une vie normale. Vu que ça sort toutes les selles, ça sort aussi tous les gaz. Et c'est comme ça que j'organise ma vie. Pour être fonctionnelle. Avant d'aller en cours, par exemple, je me lève plus tôt que tout le monde. Je me lève toujours 1 heure avant tout le monde pour pouvoir faire ce lavement. Et avant d'aller me coucher, je fais ce lavement aussi. Je vivais avec des colocataires qui se rendaient bien compte que parfois je passais des heures et des heures aux toilettes. Et elles me disaient « Ah, Dora, sors des chiottes! Mais qu'est-ce que tu fous? Sors des chiottes !» Et il y a bien un moment, j'ai dû leur expliquer la situation.
Voilà. Donc pour la première fois, t'en parles à des gens, comment ils réagissent ?
Elles réagissent bien, elles sont compréhensives. Je vis avec 3 filles, des amies de l'école. Elles me posent pas trop de questions non plus. Elles comprennent juste que quand je suis aux toilettes, faut me laisser aux toilettes. Mais c'était pas simple parce qu'on avait 1 toilette pour 4 personnes. C'était assez stressant pour moi. À ce moment-là, j'ai un copain depuis plusieurs années. Et en fait, ce garçon ne comprend pas ce qui m'arrive et surtout ne veut pas comprendre. Il me fait comprendre qu'il trouve que toutes les heures que je passe aux toilettes, c'est dégoûtant. Je le dégoûte, voilà. Donc la relation en prend un coup, parce que moi je suis choquée de sa façon de réagir avec moi. Et puis j'ai honte en fait, j'ai hyper honte. Il y a quelques épisodes un peu traumatisants où quand je vais le voir chez lui, une fois je me rappelle que j'ai dû aller aux toilettes. Il y avait des amis à lui dans la pièce. Et c'était un studio, donc parfois on entend les choses à travers les murs. Déjà, j'étais très stressée dans les toilettes parce que quand il y a ton copain à côté et les amis de ton copain, et que bah, il faut que voilà, il faut que tu ailles aux toilettes et que tu dégazes ces gaz et que tu sais que les murs sont pas très épais, déjà j'avais toujours des stratégies, la chasse d'eau, faire du bruit, mettre de la musique, bref. Sauf que là, je crois que ça, il a entendu quand même, ou ses amis ont entendu, ils ont beaucoup rigolé. Et quand je suis sortie des toilettes, j'étais dans un état hyper gênée. Du coup, je décide de lui en parler. Et quand je lui en parle, il réagit un peu mal, en ne voyant pas trop le problème et la gêne que ça a pu me causer. Et puis, en plus de ça, il me dit qu'il trouve ça dégoûtant que j'emmène mon ordinateur aux toilettes. Parce que j'emmène tout le temps mon ordinateur aux toilettes parce que je vais passer des heures aux toilettes. Donc moi, je fais ma vie sur les toilettes. J'écris ma thèse de fin d'année sur les toilettes. Je réponds à tous mes mails sur les toilettes. Enfin, les toilettes sont devenues un endroit de vie comme un autre parce qu'il faut... Ben voilà, il n'y a pas le choix. Et il me dit... des fois, je sais que t'es aux toilettes et je te vois sur le chat Facebook et ça me dégoûte parce que je sais que t'es sur le chat Facebook et que tu pourrais me parler. Et en fait, imaginez que ma meuf me parle des chiottes, ça me fait gerber. Et donc, il me dit ça et je suis hyper mal. Puis bon, ça m'a juste montré aussi que c'était quelqu'un que je pouvais pas rester avec lui, qu'il était trop immature pour comprendre. Et puis... je savais pas le recaler à l'époque. Enfin, c'est-à-dire, je savais pas exactement ce que j'avais. Je doutais moi-même parce qu'on m'avait tellement dit que c'était dans ma tête. Et puis lui, il appuyait un peu là-dessus. Et finalement, ouais, ça a accéléré la rupture.
De retour à Paris, tu deviens journaliste.
Ouais.
Comment ça se passe par rapport à ton boulot ?
C'est pas évident, parce que je suis chroniqueuse télé dans une émission sur France 2 avec Stéphane Bern. Donc je fais du plateau, et parfois j'ai des crises de gaz sur le plateau. Sauf que je peux pas lâcher parce que je suis sur un plateau et puis je suis là maquillée comme une Miss France à devoir faire le show et c'est très dur pour moi, c'est très très dur et personne ne le sait et je me retiens et il faut que je souris et je fais le job. Donc après France 2 je suis pigiste pour des magazines un peu à droite à gauche, ça me fait du bien parce que je travaille de chez moi, c'est beaucoup mieux pour moi. Et il y a un moment, je vais me faire embaucher chez Combini. Donc je deviens rédac chef adjointe chez Combini. Et là, donc, je retrouve l'espace du bureau. Et c'est pas facile, une fois de plus. C'est pas facile parce que je passe beaucoup de temps aux toilettes avec des allées-venues. Mais l'avantage génial, c'est que Combini a des toilettes très grandes. Et que je peux faire des lavements parfois chez Combini en cas de crise, parce qu'ils ont des toilettes pour handicapés. Et donc je fais partie des gens qui vont dans les toilettes pour handicapés désormais, et qui sont pas très regardants sur est-ce que je suis à mon bureau, est-ce que je travaille par-ci ou par-là. Tant que je travaille, c'est une boîte jeune, on va dire. Du coup, je m'arrange comme ça.
Tu souffres d'une maladie invalidante, mais tu dois la vivre comme un secret. Tu dois te cacher, en fait, pour vivre tes symptômes ou te traiter.
Oui, oui, oui. De toute façon, vu qu'il n'y a pas un nom sur ce que je vis, je ne sais pas comment expliquer aux gens ce que j'ai.
Est-ce qu'il y a une idée vraiment de double peine, quoi ?
Oui, je dirais qu'il y a même trois peines. Il y a la douleur, il y a la gêne sociale, et puis il y a l'incapacité à nommer cette maladie et à être crue par les autres.
Sur le papier, t'as un boulot de rêve, quoi. J'imagine que t'es contente de ce boulot, mais tu le vis mal en même temps. Comment ça se passe quand il y a des réunions, quand t'es avec tes collègues? Concrètement, comment tu te débrouilles?
En fait, vu que j'ai élaboré des stratégies avec les lavements que je fais, c'est-à-dire que quand je fais un lavement, je sais que j'ai un laps de temps à peu près de 4-5 heures de tranquillité. Donc je m'arrange comme ça, c'est-à-dire qu'avant de venir au travail, je fais un lavement, donc je me lève tôt pour le faire. Ensuite, j'ai toujours un lavement dans mon sac, que je vais pouvoir faire en cas de crise. Et puis la journée est organisée du fait que je ne mange pas le matin. Ça c'est une règle, je ne mange pas le matin, parce que sinon je sais que ça va me gâcher ma matinée. Le midi, c'est compliqué. Soit je mange pas du tout, mais dans ce cas-là, faut pas que les collègues voient. Donc, je vais faire un tour au parc. Je dis que j'ai un rendez-vous, des trucs comme ça. Très compliqué au départ, parce qu'au tout début, les gens m'ont trouvé très associable. J'ai eu un peu peur pour mon poste au départ, parce que... on me proposait, hey, ça te dit, on va en soirée, on va boire de l'alcool. Enfin, voilà, finalement, c'est des jeunes, ils boivent de l'alcool. Moi, j'en bois pas, depuis déjà des années, parce que je sais que ça empire totalement mes symptômes. Je veux pas trop... je peux pas aller grignoter des petits trucs. Donc, assez rapidement, je m'exclus. Donc, il y a des gens qui sont... oui, ils sont relativement proches les uns des autres. Et j'ai jamais été proche d'eux, vraiment. Parce que je pouvais pas. Socialement, c'était pas possible pour moi.
À ce stade, tu es un peu soulagée par le régime, les petites stratégies que tu as trouvées, mais c'est toujours extrêmement handicapant socialement, dans ta vie amoureuse, dans ton travail, avec cette idée de triple peine. Et tu veux comprendre ce que tu as, et surtout tu as encore espoir de guérir, et là va commencer un parcours du combattant pour essayer d'être diagnostiqué. Et tu vas subir des examens et des traitements tous plus surréalistes et barbares les uns que les autres, avec un problème aussi selon moi, c'est qu'on ne t'explique rien, on ne t'explique pas ce qui va se passer, or ce qui va se passer, bah c'est pas rien.
Je tombe sur un gastro-entérologue qui me fait faire plein d'examens complètement absurdes, et c'est-à-dire que je me retrouve, il me fait une ordonnance où il y a marqué « purée » sur l'ordonnance. Et alors, je dois aller acheter de la purée au supermarché, de la purée en poudre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, pourquoi je dois aller acheter de la purée? Je lui avais pas demandé, en fait. Et donc, j'arrive à l'hôpital avec ma purée, et l'infirmière me dit, est-ce que vous avez la purée? Bah oui, oui.
Tu savais pas quel examen t'allais passer?
Je savais que c'était un examen pour les intestins, mais je savais pas exactement de quoi ça relevait. Donc, elle mélange la purée avec un gel bleu que j'ai acheté à la pharmacie. Et elle me dit, bon ben, on va vous injecter ça dans les fesses. Je suis là, mais quoi? Et donc, il m'injecte cette purée bleue dans les fesses. Et je me retrouve face à une grosse machine où sur cette machine, il y a des toilettes. J'ai les infirmiers, le médecin, enfin, derrière moi. Et donc, le but, c'est que je fasse caca sur ces toilettes du produit bleu, enfin de la purée bleue. Comme ça, on le voit à la radio pour qu'ils puissent étudier la façon dont les selles descendent chez moi. Ça s'appelle une défécographie, quelque chose comme ça.
Donc tu dois faire ça devant les médecins ?
Devant les médecins.
Mais c'est complètement lunaire, tu le vis comment ?
Mais je suis hyper gênée, je comprends pas, je leur dis mais je vais faire comme ça caca devant vous là. Et puis ils me disent oui, oui, ils me disent mais poussez, poussez, poussez. Et en fait je pousse et la purée elle sort pas. Parce que déjà bon, j'ai des problèmes de constipation et puis je suis gênée, j'arrive pas à pousser plus, j'ai peur que ça pète devant eux. Et je rigole en même temps, je me dis mais cette situation est complètement, c'est complètement fou quoi. Et puis j'étais pas prévenue et puis qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc bon, j'ai poussé, il y a une partie de la purée qui est ressortie et puis une partie qui est pas ressortie. donc voilà, ça c'était un examen lunaire.
Mais t'arrives à en rire et on en rigole parce que c'est surréaliste, mais ça devait être quand même assez horrible.
Oh, c'était hyper humiliant, c'était hyper gênant, c'était n'importe quoi quoi. Je rigolais pas beaucoup aujourd'hui, j'en rigole, mais je rigole pas beaucoup quand ça m'arrive. Mais c'est un vrai examen qui existe. Et en même temps, merci qu'il y ait des examens comme ça, parce que c'est quand même assez poussé d'aller regarder comment quelqu'un défèque, en fait.
Quand on est malade, enfin quand on est patient, on doit souvent vraiment mettre sa dignité de côté, quoi. Vivre des trucs sacrément durs.
J'ai complètement mis ma dignité de côté, mais j'ai eu l'habitude parce que, à travers toutes ces années, on m'a tellement ausculté les fesses, l'anus, il y a eu d'autres coloscopies, il y a eu plein d'examens les plus humiliants les uns que les autres. Et puis, suite à cette défécographie-là, suite à cet examen, il me trouve ce qu'on appelle un anisme, c'est-à-dire que mon anus ne pousse pas normalement ou ne réagit pas normalement. Et quelque part, j'étais un peu contente qu'on me trouve quelque chose. Et en même temps, je savais très bien que ça n'expliquait pas totalement le problème. Et ceci dit, pendant 6 mois, du coup, le chercheur à l'hôpital me met tous les lundis matin une sonde dans les fesses pour me réapprendre à pousser. Comme un god dans les fesses. Et du coup, on fait des exercices de sport avec mon anus. Le truc est délirant. Donc, je vais pendant 6 mois à l'hôpital pour faire cette rééducation anale qui ne sert absolument à rien, qui n'a rien changé à mon problème. Donc, il y a un stade où je comprends que ça va pas le faire. Je change encore de gastro-entérologue. Il me fait encore des examens et il me dit que j'ai un prolapsus anal cette fois-ci. Donc, je me retrouve avec 5 cm de mon rectum qui s'enfonce vers mon vagin. Donc, ça crée comme une poche. Et à ce moment-là, on m'envoie vers un gynéco. Et la solution qu'on me donne, c'est de me donner une sorte de cube qu'on s'insère dans le vagin. Donc, je me retrouve pendant quelques mois à devoir m'insérer tous les jours un truc dans le vagin pour essayer de redresser la paroi rectale dans l'espoir que la défécation se fasse mieux. Ça ne change rien non plus, parce que le problème, c'est les gaz. C'est ce que j'essaye de leur dire depuis le début.
Donc en fait, pendant tout ce temps, tu subis des examens quand même tous plus barbares les uns que les autres, pour rien.
Pour rien. Pour rien. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, dans la médecine, on considère que le gaz n'est pas un symptôme. Donc, ils savent traiter la constipation, ils savent traiter la diarrhée, mais quand je dis que je sais que l'origine du problème, ce sont les gaz, ben, ils savent pas quoi faire de cette information.
Tu vois 7 gastro-entérologues, je crois, en tout ?
Ouais, je sais même plus, mais j'en ai vu une dizaine, quoi, à peu près, oui. Après, je peux pas tous leur lancer la pierre. C'est-à-dire que ceux dont je parle, qui ont quand même essayé de me faire des examens qui sont coûteux, des examens qui sont compliqués à faire, des examens qui prennent du temps, j'ai envie de dire qu'avec leur propre connaissance, ils ont fait ce qu'ils pensaient juste. Mais là, oui, le vrai problème, c'est que les médecins sont très très mal formés aux maladies du microbiote. Parce que je me suis rendu compte par la suite, donc, que c'était une maladie du microbiote. Et le microbiote, ça fait quoi? Ça fait 10-15 ans qu'on en parle. Mais quand ces médecins ont été formés à l'université, c'était sans doute pas dans le cursus. Et par conséquent, ils en savent pas grand-chose.
Tu dis dans le livre que t'as l'impression que cette maladie est invisible, en fait. Tu dis, je voudrais même pouvoir péter dans des bouteilles pour leur montrer, quoi, que c'est réel.
Mais oui, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que les médecins, ils me disent, ce n'est qu'une impression. Et moi, je suis sûre que c'est pas une impression, parce qu'avec le nombre de gaz que j'évacue, j'ai vraiment, il y en a certains, je leur ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire, monsieur, pour vous prouver que c'est pas dans ma tête, c'est physique, c'est réel, c'est bien dommage que les gaz, je puisse pas les attraper pour les mettre dans un sac. J'ai eu des fantasmes violents envers les médecins, mais je me suis dit, quand certains m'examinent, je vais leur péter à la tête et puis mettre du feu comme ça, enfin, pour qu'ils voient, parce que c'est insupportable, c'est parce que les gaz c'est invisible et on peut pas les attraper. Donc j'aurais préféré saigner du sang, parce que quand on, par exemple, certains avec une maladie de Crohn saignent, bon ben voilà, tu prends une photo, tu saignes, le truc est clair comme de l'eau de roche, quoi. Le fait qu'on me dise c'est dans ma tête, c'est intolérable pour moi. En fait, j'ai beaucoup envié les gens qui avaient la maladie de Crohn, j'ai envié les gens qui avaient du cancer du côlon, j'ai envié les gens dont la pathologie était claire, et j'ai envié les gens qu'on plaignait. J'ai envié les gens qu'on disait « Oh mon pauvre chéri, t'es vraiment malade !» J'étais en colère, j'avais envie d'avoir une maladie de Crohn, j'avais envie d'avoir un cancer du côlon, j'avais envie qu'on croie. Donc à ce moment-là, je souhaite avoir une maladie plus grave, une maladie où on va m'arranger la vie, où on va comprendre qu'il y a des jours où je peux pas venir au travail, une maladie où quand je le dis à des gens, ça résonne dans leur tête.
Tu comprends que ça puisse choquer quand tu dis « j'en viens à souhaiter d'avoir une maladie grave ».
Je sais que ça choque des gens, mais je pense aussi que tous les gens qui ont une maladie chronique non reconnue comprendront très bien ce que je veux dire par là, parce que les gens qui ont des fibromyalgies, les gens qui ont de la fatigue chronique, les gens qui ont Lyme et qui n'ont pas été reconnus pendant des années, plein d'autres pathologies, on en arrive à juste vouloir pouvoir mettre un mot là-dessus et puis avoir un statut, quoi.
La suite dans la deuxième partie de l'épisode.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.